Logiquement, tous ceux qui se disent chrétiens ont une notion de ce qu'est le baptême. La plupart de ceux qui sont nés de parents chrétiens ont été baptisés. Pour plusieurs, ils ont été amenés dans une église, peu après leur naissance, pour être au cœur d'une cérémonie spéciale où un prêtre prononçait des paroles rituelles en aspergeant leur tête avec un peu d'eau. Pour d'autres, cela s'est passé différemment. En tant qu'adultes ou adolescents, ils ont été totalement immergés dans l'eau lors d'un autre genre de cérémonie. Si vous n'êtes pas un chrétien pratiquant, vous considérez probablement la chose comme étrange et dépourvue de sens. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est au juste la signification du baptême? Se peut-il que ce soit quelque chose d'important, en lien direct avec un éventuel salut? Si vous avez déjà été baptisé, cela a-t-il été fait selon les instructions bibliques? Remplissiez-vous alors les critères d'admissibilité au baptême? Sinon, se peut-il que votre baptême ne soit pas valable aux yeux de Dieu? Au cœur du christianisme et du judaïsme, il existe une grande variété de rites de purification, comme le lavage des mains, l'aspersion des enfants et l'immersion totale des adultes. Certains rejettent même complètement la doctrine du baptême. Pourquoi toutes ces différences? Ces dénominations religieuses affirment pourtant que leur pratique est basée sur la Bible. Savez-vous ce que dit vraiment la Bible à ce sujet? Restez à l'écoute. Salut à vous! Les rites de purification font partie de plusieurs religions. Au Japon, par exemple, les temples bouddhistes mettent à la disposition de ceux qui les fréquentent de petits bassins de pierre permettant le lavage rituel des mains et de la bouche. Ceux qui sont invités à la cérémonie du thé doivent aussi se purifier de cette manière. Dans la tradition shintoïste, pour se purifier, hommes et femmes vêtus de paille ou de kimono et de bandeaux se baignent sous une chute naturelle. Le rituel hindou, quant à lui, consiste à se baigner dans le Gange ou dans d'autres cours d'eau considérés comme sacrés. Certains fidèles boivent même de petites gorgées de cette eau en récitant des mantras. Chez les tribus autochtones en Amérique du Nord, plusieurs personnes utilisent une hutte de sudation pour se purifier en préparation à des cérémonies spéciales. Les rites de purification sont aussi pratiqués sous une forme ou sous une autre par les chrétiens et par les juifs. Chez les catholiques romains, par exemple, les gens sont baptisés peu après leur naissance, alors que chez les protestants, ils sont plutôt baptisés à l'adolescence ou à l'âge adulte, selon la dénomination à laquelle ils appartiennent. À l'entrée des églises, on trouve souvent de l'eau bénite pour y tremper le bout des doigts avant de faire le signe de la croix. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de l'importance du baptême et de sa signification. Nous verrons également, à partir de la Bible, qui peut être baptisé et quelle est la bonne manière de procéder. Enfin, nous verrons quelles conditions doivent remplir ceux qui désirent être baptisés. Commençons par poser la question. Le baptême est-il important? Pourquoi certaines églises considèrent-elles le baptême d'eau comme quelque chose d'important alors que d'autres pensent autrement? Après tout, la plupart des églises prétendent s'appuyer sur la Bible en ce qui concerne leur pratique. Mais est-ce bien le cas? Les traditions humaines n'auraient-elles pas, au fil du temps, pris plus d'importance que les Écritures elles-mêmes? Si Dieu existe et que la Bible est l'expression de sa pensée, il importe vraiment de savoir ce qu'elle déclare. La Bible indique-t-elle clairement, surtout dans le Nouveau Testament, que le baptême est nécessaire? De deux choses l'une, ou bien il est nécessaire, ou bien il ne l'est pas. Nous pouvons lire dans l'Évangile de Matthieu, à partir du verset 13, que Jésus nous a donné un exemple. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Pensez-y. Si Jésus nous a donné cet exemple, comment quelqu'un peut-il prétendre suivre ses instructions en disant que le baptême n'est pas important? De plus, le Christ a été, semble-t-il, responsable du baptême de plusieurs personnes. Nous voyons cela dans Jean 4, versets 1 à 3. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Après sa mort et sa résurrection, Jésus a d'ailleurs commandé à ses apôtres de baptiser les nouveaux convertis. On peut le lire dans Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ses disciples lui ont-ils obéi? Quelques semaines plus tard, nous voyons que l'apôtre Pierre s'est adressé à des gens qui avaient pris part aux événements qui ont mené à la crucifixion de Jésus. Son sermon s'est avéré si direct et si puissant que ces gens ont réalisé qu'ils avaient injustement tué le Messie prophétisé, exactement comme les Écritures l'avaient prédit dans l'Ancien Testament. Ceux qui entendirent Pierre furent profondément touchés et lui posèrent une question très importante. Dans Actes 2, 37, nous pouvons lire « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Quelle fut la réponse de Pierre? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » À vrai dire, une personne qui lit le Nouveau Testament avec un esprit ouvert et objectif ne peut s'empêcher de conclure que le baptême est nécessaire. Le Christ a été baptisé. Il a également baptisé, par l'entremise de ses apôtres, un grand nombre de personnes. Tous les apôtres, y compris Paul, ont été eux-mêmes baptisés. Et Jésus a commandé à ses disciples de porter la vérité aux nations et de baptiser ceux qui croiraient la vérité et se repentiraient de leurs fautes. Quand les gens ont demandé à Pierre ce qu'ils devaient faire pour que leurs péchés soient pardonnés, il leur répondit de se repentir et de se faire baptiser. L'histoire de l'Église, au premier siècle, démontre à maintes reprises l'importance de cette cérémonie toute simple, mais à la signification très profonde. Le baptême est important. Mais que symbolise-t-il au juste? Nous verrons que le baptême est une cérémonie pleine de sens. Parlons d'abord d'un homme appelé Saul, qui avait été enseigné dans le judaïsme par Gamaliel, un des plus grands professeurs de son temps. La Bible rapporte que Saul était tellement zélé qu'il se mit à persécuter les chrétiens. Mais un jour, alors qu'il se rendait à Damas dans le but de ramener comme prisonnier des disciples de Jésus-Christ, quelque chose de surnaturel le fit tomber de sa monture. Aveuglé par une lumière éclatante, il entendit une voix qui lui semblait venir des cieux, et il perdit la vue. Il entreprit alors un jeûne et après 3 jours, un homme nommé Ananias vint à lui. Lisons la suite dans Actes 9, versets 17 et 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Vous avez bien entendu, cet homme fut baptisé. Plus tard, son nom fut changé en celui de Paul et il devint l'apôtre Paul, un personnage très important dans la Bible. Il a d'ailleurs écrit 14 lettres, lesquelles forment une grande partie du Nouveau Testament. Pourquoi Paul a-t-il été baptisé? Que symbolise cette cérémonie? Il est intéressant de noter que cet ancien persécuteur des chrétiens a plus tard lui-même été persécuté. Et en guise de défense, il a rappelé les propos qu'Ananias lui avait tenus après qu'il eut recouvré la vue. Acte 22, verset 16. « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ce verset apporte certainement des précisions, mais il ne révèle toutefois qu'une partie de la signification du baptême. L'explication n'est pas complète. C'est dans une lettre qu'il adressa plus tard aux chrétiens à Rome, l'Épître aux Romains, que l'apôtre Paul révèle le sens profond du baptême. Dans cette lettre, il parle du péché, lequel est la transgression de la loi de Dieu. Il explique aussi que nous sommes tous coupables. Nous avons tous péché en transgressant la loi de Dieu. Puis, il mentionne que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes donc tous condamnés à mort. Aucune bonne action subséquente de notre part ne peut nous délivrer de cette condamnation. C'est seulement grâce au sacrifice du Christ que nous pouvons être pardonnés. Le pardon est une grâce, un cadeau de Dieu. Certains ne comprennent pas cela. Ils s'imaginent que parce que le Christ s'est sacrifié pour nous, nous pouvons allègrement continuer à pécher. Ils pensent qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi. C'est faux. C'est pour cela que l'apôtre déclare dans Romains 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Les versets suivants expliquent ce que signifie être mort au péché. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » La cérémonie du baptême représente une mort, un ensevelissement et une résurrection. Nous devons nous repentir de nos péchés et, d'une certaine manière, mettre à mort la personne que nous étions avant pour ressortir des eaux du baptême, résolus à vivre une vie nouvelle, une vie d'obéissance à Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. L'apôtre ne laisse aucune place au doute. Le converti doit faire sa part. Dieu ne veut pas que nous continuions à vivre comme avant en pratiquant des choses contraires aux lois divines. Voyons ce que Paul déclare dans Colossiens 3, à partir du verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » La Bible est très claire à ce sujet. Le baptême représente le pardon de nos péchés, mais il représente aussi la mort et l'ensevelissement de la personne que nous étions auparavant, suivi d'un changement de comportement de notre part. Le baptême illustre aussi ce que le Christ a fait pour nous. Il est mort et a été enseveli pour nous, et il est ressuscité à la vie éternelle 3 nuits et 3 jours plus tard. Le baptême symbolise la mort de notre ancienne façon de vivre. Mais comment faut-il procéder pour baptiser quelqu'un?
Pour en apprendre davantage sur les thèmes traités au cours de cette émission, commandez sans aucune obligation de votre part notre brochure gratuite Devriez-vous être baptisé? Celle-ci contient des informations importantes pour comprendre la Bible. composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger à partir de notre site Internet. Devriez-vous être baptisé? Appelez dès maintenant.
Comme nous l'avons vu, le baptême illustre de manière figurative la mort et l'ensevelissement d'une personne au moment de son immersion totale dans l'eau. Il existe deux exemples de cela dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est le déluge survenu au temps de Noé. En mentionnant cet événement, l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre 3, verset 21, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Noé et sa famille étaient alors complètement entourés d'eau. Il y avait de l'eau au-dessus d'eux, en dessous et tout autour. Pour ce qui est des autres, ils ont péri engloutis par les eaux. Tous sont morts à l'exception de ceux qui se trouvaient dans l'arche. L'autre exemple est survenu lorsque la nation d'Israël, après être sortie d'Égypte, a pénétré dans les eaux de la mer Rouge. Par une intervention surnaturelle, Dieu a alors séparé les eaux de la mer pour permettre aux Israélites de s'échapper. Quand l'armée égyptienne qui les poursuivait a tenté elle aussi d'y pénétrer, les eaux se sont refermées sur ses soldats en les engloutissant complètement. Aucun n'a survécu. Dans sa première lettre à l'Église de Corinthe, Paul explique que cet événement était une représentation symbolique du baptême. Voyons comment l'apôtre dépeint la scène en parlant des murs d'eau de chaque côté des Israélites et de la nuée qui les couvrait. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Ces deux exemples, le déluge et la traversée de la mer Rouge, représentent un tombeau liquide duquel nos ancêtres sont ressortis pour accéder à une vie nouvelle. Dans le Nouveau Testament, il existe plusieurs exemples de baptême par immersion totale. Notez que pour immerger totalement une personne, il faut beaucoup d'eau, alors que dans le cas d'une aspersion, il suffit de quelques gouttes. Quand une personne décède, on ne se contente pas de jeter sur elle un peu de terre. On creuse un trou dans le sol et on l'enterre. Or, le baptême représente l'ensevelissement de quelqu'un. C'est pourquoi il faut beaucoup d'eau pour recouvrir complètement la personne. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, un fleuve du Moyen-Orient. Il est écrit dans Jean 3, 23, « Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. » Dans la Bible, le baptême de l'eunuque éthiopien est bien connu. Cet homme, d'une humilité remarquable, est un exemple pour chacun d'entre nous. Contrairement à la plupart des gens, il était enseignable et il reconnaissait ses limites. Voyons ce qui est écrit dans Actes 8, versets 30 et 31. « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Philippe, un diacre nouvellement ordonné, lui expliqua que le passage qu'il lisait était une prophétie au sujet du Christ. Nous n'avons pas le récit complet de leur conversation, mais nous pouvons voir qu'à un moment donné, l'eunuque avait acquis une conviction. Continuons de lire à partir du verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ce récit révèle non seulement l'attitude d'humilité dont nous devons tous faire preuve, mais aussi le procédé par lequel le baptême doit être effectué, c'est-à-dire l'immersion complète. C'est évident, puisqu'il est dit qu'ils descendirent tous deux dans l'eau pour ensuite en ressortir. Le baptême, selon la Bible, doit se faire par immersion totale. Jusqu'à présent, nous avons vu les caractéristiques du baptême chrétien. Le baptême est important. Le baptême symbolise la mort de notre ancienne façon de vivre. Le baptême, selon la Bible, doit se faire par immersion totale. Pour aller plus loin dans la compréhension des choses, nous devons maintenant examiner les critères d'admissibilité au baptême, c'est-à-dire les conditions à remplir pour être baptisé. Quelles sont ces conditions? Combien y en a-t-il?
Pour comprendre en quoi consiste le pardon de Dieu, demandez notre brochure gratuite « Devriez-vous être baptisé? » Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Pour être baptisé, il nous faut croire en Jésus-Christ. Par les propos échangés entre Philippe et l'eunuque éthiopien, nous pouvons voir que celui qui désire être baptisé doit d'abord croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il doit aussi être disposé à vivre chrétiennement, c'est-à-dire à mettre en pratique dans sa vie les enseignements du Christ. Vers la fin du premier siècle, des décennies après la crucifixion de Jésus et longtemps après la mort des autres apôtres, l'apôtre Jean a déclaré dans 1 Jean 2, à partir du verset 3, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un déclarer que les lois de l'Ancien Testament sont des fardeaux que nous n'avons plus à porter, qu'il suffit maintenant d'aimer les autres. Pourtant, dans 1 Jean 5, au verset 3, nous pouvons lire « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Jésus nous avait averti qu'il y aurait des gens qui, tout en le considérant comme leur maître, ne voudraient pas lui obéir. Notez ce que rapporte Luc 6, au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Croire que Jésus est le Christ, le Messie, est essentiel et fait partie des critères requis de ceux qui désirent être baptisés. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi obéir au Christ. Pour cela, il nous faut nous détourner de nos anciennes façons de faire et commencer à mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est le repentir. Rappelons-nous ce que Pierre a déclaré le jour de la Pentecôte à ceux qui lui demandaient « Que ferons-nous? » Il ne leur a pas dit « Venez comme vous êtes. » Au contraire, il leur a dit de changer, de se repentir. Acte 2, verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons que pour être baptisés, nous devons nous repentir de nos fautes. Jésus lui-même, au début de son ministère, a appelé à la repentance. Lisons Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous l'avons dit et répété. Le repentir consiste à nous détourner de notre ancienne façon de vivre pour emprunter une nouvelle voie, avoir une bonne attitude et nous laisser enseigner, comme l'a fait l'eunuque éthiopien. Pour y arriver, nous devons cesser de nous fier à nos propres pensées Et cela n'est pas facile. De nos jours, la société encourage plutôt les gens à avoir confiance en eux-mêmes. Mais cette idée n'est pas la bonne. Proverbe 14, au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le prophète Jérémie comprenait quelque chose que bien peu de gens saisissent. Nos idées ne sont pas justes. C'est en Dieu qu'il faut placer notre confiance. Nous devons avoir en lui une confiance absolue et le laisser diriger nos pas, nous montrer la voie à suivre. Jérémie a écrit au chapitre 10 de son livre, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ainsi, pour être baptisés, nous devons croire en Jésus-Christ, nous repentir humblement de nos fautes, croire à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Croire à la bonne nouvelle ou à l'Évangile du royaume de Dieu, qui sera bientôt établi sur la terre, voilà qui constitue le dernier critère d'admissibilité au baptême. La troisième condition à remplir avant d'être baptisé. Il est écrit dans Luc 8, au verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'avenir qui nous attend. Si nous nous engageons par le baptême à suivre le Christ et à nous laisser transformer par lui, si nous acceptons de le laisser diriger nos pas, il nous offre un avenir merveilleux. C'est pourquoi nous en parlons souvent dans les émissions du Monde de demain. Et nous continuerons de le faire. N'hésitez pas à consulter sur nos différents sites Internet les nombreux documents qui s'y rapportent. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le Monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Devriez-vous être baptisé? » Cette publication gratuite vous permettra de comprendre votre besoin d'un sauveur personnel pour le pardon de vos péchés. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le Monde de demain », qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.